et lui aussi on le saisit en vol. Bonjour Robin Renucci.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, acteur, metteur en scène. Vous avez, en tant que président de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux et directeur des Tréteaux de France, initié et rédigé une tribune qui a beaucoup fait parler d'elle, et notamment sur les ondes de France Culture, on en parlera. Mais vous venez aussi nous parler de votre dernière pièce, La guerre des salamandres, une adaptation du roman d'anticipation de Karel Čapek, écrivain tchèque qui, dès les années 20, écrit des pièces qu'on peut classer dans le genre quoi ? Science-fiction ?
Politique-fiction, science-fiction, roman d'anticipation. C'est un homme tout à fait extraordinaire qui a vécu dans les années 30 en Tchécoslovaquie et qui est mort malheureusement en 1938, qui a eu le temps de créer quelques pièces de théâtre et quelques livres tout à fait exigeant et très fort de regard sur notre société du XXe siècle et XXIe, puisque dans La guerre des salamandres, il décrit à la fois une catastrophe écologique, il nous parle de la Louisiane sous les eaux, et il y a quelques semaines, nous constations qu'il avait raison en ce qui concernait la Louisiane, la fonte des neiges, à travers une histoire qui est très simple au fond, mais qui raconte une nouvelle prolétarisation d'un petit groupe d'animaux que sont des salamandres corvéables à merci et qui vont à un moment se révolter contre la volonté des hommes, leur mégalomanie à vouloir posséder la planète. Donc c'est un roman d'anticipation, d'une grande force sensible, jubilatoire, que nous avons pu créer au Festival d'Avignon dans Villeneuve-en-Seine cet été, et que nous allons, avec les Tréteaux de France, ce centre dramatique national qui a une mission de répandre notre travail artistique dans toutes les régions de France, partir en tournée dans quelques jours. Nous sommes en ce moment même dans des bases de loisirs.
Saint-Quentin.
Voilà, entre autres, nous venons de Draveil, nous sommes à Saint-Quentin en Yvelines en ce moment, à Cergy la semaine prochaine et à Torcy. C'est la mission des Tréteaux de France que d'être au plus près des publics que l'on dit éloignés, en tout cas ceux qui ne partent pas en vacances, et il n'y a pas que les publics ruraux que va visiter les Tréteaux de France, mais au fond tous ceux qui sont notamment dans la région parisienne retenus pour multiples raisons, notamment de ségrégation à la fois géographique ou d'impossibilité de se déplacer.
Bon bah alors vous nous guidez vous-même tout seul vers le sujet qui nous préoccupe, peut-être qu'on reviendra sur la guerre des salamandres tout à l'heure, mais les Tréteaux de France, c'est votre mission que de participer à la décentralisation de la culture. La pièce, vous le disiez, est itinérante. Tréteaux de France, comment ça se passe ? Vous restez combien de temps sur place ? Est-ce que vous avez un échange systématique avec le public ?
Alors, donc, c'est une aventure qui a été créée par Jean Danet, il faut le rappeler, dans les années 1959, au moment où les politiques culturelles naissaient dans notre pays. Et cette compagnie est devenue centre dramatique en 1972. Donc, la mission de service public des Tréteaux de France, c'est d'aller là où le théâtre n'est pas. Aujourd'hui, il continue à ne pas être dans des lieux ruraux, comme je l'évoquais, mais aussi dans des lieux des métropoles, où il y a encore beaucoup de publics qui ne peuvent pas rencontrer le théâtre. Hier même, j'ai eu dans le public des jeunes gens qui n'étaient jamais allés au théâtre. Donc il y a à la fois une mission de création, puisque les centres dramatiques créent des œuvres, de diffusion bien sûr, mais nous essayons de conjoindre, et c'est mon projet, la création, la transmission, la formation, l'éducation populaire, à chaque fois pour qu'il y ait la présentation de ces œuvres, mais aussi des pratiques avec ces publics.
C'est ce que vous faites aussi en Corse, avec les rencontres de l'ARIA ?
C'est exactement ce qui est né en Corse. Donc pour les Tréteaux de France, en ce moment même, dans les bases de loisirs, comme je l'évoquais, eh bien, il y a 180 représentations de théâtre, mais aussi des ateliers, 120 ateliers de théâtre qui sont en exercice. Ça va de rentrer dans une petite maison où vous allez recevoir des poèmes, des textes pour des gens qui ne les ont jamais entendus, à des œuvres comme La guerre des salamandres ou les diverses pièces que nous jouons en ce moment, et des ateliers de travail corporel, de travail en famille, d'ateliers de jeux, d'expression et parfois même de création, s'en est, pendant quelques heures ou qui débouche sur un moment partagé avec le public autre que la diffusion des œuvres.
Mais depuis l'après-guerre et plus encore depuis les années 80, François Mitterrand avait donné un nouveau coup de fouet à la décentralisation culturelle. De nombreuses communes se sont équipées et notamment de salles pour des représentations de théâtre, mais vous sentez qu'il y a quand même encore une demande des Tréteaux de France ?
Il y a une grande demande des Tréteaux de France. Nous jouons près de 700 représentations dans les mois qui viennent de s'écouler. Donc c'est une véritable demande. Il y a encore des territoires de France qui ne sont pas irrigués. Vous parliez de la décentralisation théâtrale, c'est de celle-ci dont on parle, qui est née donc dans le sillon de Jacques Copeau, de Charles Dullin, de Louis Jouvet pour la première décentralisation, et puis ensuite les grands centres dramatiques, Jean d'Asté à Saint-Étienne, Maurice Sarrazin, Hubert Gignoux. Donc c'est toute une aventure de la décentralisation théâtrale qui d'ailleurs n'a pas touché la Corse, puisque vous évoquiez la Corse. Elle s'est arrêtée aux portes de Marseille. Il faut rappeler que la région Corse est la seule région de France, y compris parmi les régions ultramarines, qui n'est pas dotée ni de centre dramatique ni de scène nationale. C'est pourquoi nous avons créé en effet l'ARIA.
Il y a eu une pensée de l'État là-dessus, quoi, sur la politique culturelle en Corse.
Et l'ARIA, cette association que nous avons créée en 1998 et qui vient de fêter ses 20 ans, qui a d'ailleurs été visitée par la ministre de la Culture Françoise Nyssen il y a quelques jours, nous permet non pas de pallier à cette absence, cette carence de lieux labellisés, disons, en Corse, mais de faire ce travail auquel je tiens beaucoup, qui est la conjonction entre l'éducation, la formation, la transmission et l'éducation populaire. Très concrètement, c'est-à-dire sur le plateau, vous allez trouver des éducateurs et des animateurs, des professionnels du spectacle vivant très exigeants, des amateurs, des enseignants de l'éducation nationale, des participants de pays étrangers. Si bien que sur le plateau, vous avez le peuple, et vous avez une grande audience qui vient assister à ces représentations qui sont issues en fait de formations suffisamment longues pour qu'il y ait des œuvres exigeantes artistiques proposées.
Voilà, heureusement qu'en Corse, comme partout ailleurs, des initiatives particulières, individuelles ou de compagnies ont été lancées un peu partout. Pendant qu'au ministère de la Culture, on se demande comment faire profiter de la culture parisienne, le reste de la France, les structures locales, elles, ont avancé toutes ces années.
Je visite, vous savez, les 13 régions de France depuis que nous sommes 13 régions. Et par ce travail des Tréteaux de France et cette mission, je rencontre les présidents de région, je rencontre les directions d'action culturelle sur les territoires. Il y a une force extraordinaire dans notre pays, qu'il faut reconnaître davantage sans doute, des compagnies, conventionnées ou non, des lieux labellisés comme le sont les centres dramatiques nationaux, pour ne parler que de la création théâtrale, mais il faut rappeler que la création chorégraphique, musicale, les arts du cirque sont très importants dans notre pays, et il y a un maillage extraordinaire que je peux visiter et surtout éclairer dans certaines circonstances, dans des lieux qui paraîtraient, comme on les a appelés récemment, des zones blanches ou des déserts culturels, où là, parce qu'ils ne sont pas recensés, disons, ces endroits, pas suffisamment évalués dans mon esprit, dans notre esprit, eh bien, les Tréteaux de France peuvent permettre de créer des partenariats, des collaborations très très riches, et de témoigner, comme je veux le faire ce matin, de la qualité extraordinaire de tous ces réseaux que l'on appelle, en fait, un peu dans des zones blanches ou des déserts, qui sont souvent minorés.
Et c'est ce que vous déploriez dans votre tribune, le fait que les déserts culturels, les zones blanches sont regardées d'un point de vue surplombant et aérien par le gouvernement, le ministère de la Culture, l'Élysée. Mais pour une fois que le ministère annonçait s'intéresser aux territoires qui ne sont pas desservis par l'offre culturelle et artistique, certains n'ont pas compris que cette tribune arrive à ce moment-là.
Oui, alors cette tribune, elle interpelle, c'est son travail. Elle est faite par des gens très raisonnés, raisonnables, qui sont en effet sur les territoires. Et je voulais nommer autre catégorie que la décentralisation dramatique, dont nous parlions tout à l'heure, théâtrale, en parlant des autres arts. Parce que il y a une volonté, tout simplement, de témoigner, comme je le fais encore, de toute cette exigence et toute cette innovation, cette recherche même, que font les centres dramatiques nationaux et tous ces centres, et qui s'appuient sur les acteurs du territoire et surtout sur le public. C'est-à-dire le public qui est très souvent considéré comme un consommateur dans bien des endroits, qui reçoit des injonctions en fait à consommer. Je le rencontre tous les jours, il est plein de désirs, il a une grande envie de poésie, de recherche, d'inconnu et surtout de service public. Il a besoin de ce service public. Et les élus que je rencontre, ou bien les services déconcentrés de l'État dans les régions que je peux rencontrer, ont besoin d'une forte présence de l'État pour maintenir une équité territoriale, pour une égalité et une fraternité également qui s'ensuit, pour pouvoir exercer tout ce que les uns et les autres ont la capacité de faire.
Voilà pourquoi vous parlez, par exemple, de l'affaiblissement des DRAC, les directions régionales de l'action culturelle. Vous dites combien aujourd'hui elles sont en sous-effectif. Or, si on regarde dans le détail, les moyens déconcentrés dans les DRAC vont augmenter l'année prochaine de 6%. Bon, c'est pas énorme, mais on peut pas dire qu'ils seront affaiblis.
Voilà, il faut simplement se méfier de ce qui est performatif, si vous voulez. Il y a les écrits et puis il y a les directions qui sont données. Sans aucune volonté polémique, nous sommes dans une relation d'un gouvernement qui est libéral. Et on ne peut pas reprocher que l'idée du privé ou des rapports de rapidité, disons, d'exécution, de performance de l'entreprise mène le jeu. C'est tout à fait normal. Nous avons donc cette politique qui est en place. Simplement, ce service public sur lequel nous sommes fondés ne peut pas s'éroder. Nous y tenons. Je prends l'exemple de l'État qui investit, par exemple, dans ce que vous appelez les DRAC, c'est-à-dire les services déconcentrés de l'État, 10 000 euros, qui est une petite somme, pour un projet qui va avoir lieu sur un territoire. Eh bien, si l'État se désengage de ces petites 10 000 euros, qui sans doute créent de la nécessité d'organisation, de gestion, de personnel déconcentré donc de l'État sur les territoires, eh bien, la région ou les autres financeurs ne viendront pas parce que l'État n'y est plus, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a un chantier qu'on appelle de réorganisation territoriale, de l'action publique, qui s'appelle CAP 22, que vous connaissez, qui sous-entend 30 milliards d'économies dans le service public à venir. Ce que nous souhaitons faire, c'est d'alerter nos concitoyens pour dire que le service public, c'est un outil extraordinaire de notre pays et qu'il ne faut pas l'éroder, tout simplement, comme c'est le cas dans d'autres domaines, de la santé, du transport. La culture n'est pas un lieu particulier, enceint dans un ministère. Il est la vie et le vivre ensemble qui est lié au reste des activités de nos concitoyens.
Alors, par exemple, quels sont les témoignages qui vous sont remontés du terrain et des DRAC, par exemple ?
Eh bien, tout simplement, il y a une belle expérimentation en ce moment. Par exemple, dans la région Bretagne, depuis quelque temps, eh bien, nos concitoyens que j'ai pu rencontrer se soucient de ce que, en effet, cette direction régionale de l'action culturelle ne soit pas minorée, qu'on n'assiste pas à un système de guichet, si vous voulez, où on vient réclamer son argent, et ça se passe beaucoup autour de la question de la subvention.
Ça, c'était une initiative de François Hollande, donc d'un gouvernement socialiste.
Oui, mais vous voyez que ça n'est pas, la chose n'est pas d'un point de vue de l'alternance politique. Elle est dans le suivi de ce que nos aînés, femmes et hommes, ont construit depuis des décennies, qui consiste à ce que chacun, dans une égalité, c'est la base même de la pensée égalitaire, fraternelle de notre République, puisse bénéficier des droits qui lui sont dus. Il y a aujourd'hui, depuis d'ailleurs, des droits, les droits culturels, depuis le 5 juillet 2016, qui demandent, qui imposent même à ce que l'État agisse dans ce sens. Donc dès que l'on sent que quelque chose est en minoration, c'est une alerte tout simplement, et ça nous fait tous réfléchir visiblement.
Il y a eu plusieurs alertes, il y a eu le fait qu'il n'y ait plus aujourd'hui au ministère de la Culture de direction générale de la création artistique ni du patrimoine, il n'y a personne en ce moment à la tête de la Réunion des musées nationaux et vous entendiez peut-être dans le journal de 8h tout à l'heure un sociologue spécialiste des questions culturelles, Quentin Fondu, dire que progressivement le cabinet de Françoise Nyssen avait été réduit à 10 conseillers et qu'à la place on a nommé des chargés de mission lesquels n'ont pas la culture de la culture, si j'ose dire. Est-ce que vous en avez rencontré ? Est-ce que vous pouvez parler avec eux ?
Il y a certains chargés de mission importants, comme Bernard Latarget, qui est là pour...
Qui était sur notre antenne la semaine dernière.
Pour rééquilibrer cette question de ce que la ministre Françoise Nyssen, qui par ailleurs fait un travail de générosité, parfois pas suffisamment étayée, tout simplement, c'est ce que nous avions envie de dire également, mais Bernard Latarget est en train d'inverser, disons, la verticalité de ce qui était dans la communication, disons, surplombant, c'est-à-dire depuis Paris, la capitale va irriguer la province, qui sont en fait l'histoire même de la nécessité de cette décentralisation théâtrale dont je parlais. C'est parce que Copeau disait « à la campagne, nous sommes intoxiqués par le parisianisme au fond ». Donc revenir à cette idée qu'on puisse partir de Paris pour aller de manière condescendante vers nos concitoyens de province, c'est ce que nous avons voulu éviter. Mais Bernard Latarget le rectifie aujourd'hui. La ministre avec laquelle nous travaillons assidûment, j'ai pu la rencontrer et nous travaillons ensemble, eh bien, est en train d'inverser cette valeur et nous repartons peut-être sur de bonnes bases grâce à ces tribunes que nous faisons.
Et tribune qui la met aussi un peu en position de porte-à-faux. Quand vous écrivez dans cette tribune que l'Élysée veut affaiblir délibérément le ministère de la Culture, elle a dû, j'imagine, ça a dû passer difficilement. Vous en avez parlé avec elle ?
Je pense, alors j'ai très peu parlé de cela avec elle, il se trouve qu'il y a une concomitance, elle est venue, donc comme je vous le disais, en Corse il y a quelques jours. Il n'y a aucune corrélation entre cette tribune et les conversations d'ailleurs publiques que j'ai eues avec elle, et bien entendu cette tribune a été travaillée depuis le Festival d'Avignon. Nous représentons encore une fois, et je tiens à le dire, 38 centres dramatiques nationaux dont je suis le président de l'association. Je ne parle pas en mon nom, mais au nom de l'ensemble, et puis comme je l'ai dit, de tous les labels, pas seulement de théâtre, et c'est une écriture très collective. Je la porte avec plaisir dans ma mission de président, mais au fond c'est une parole publique collective.
Alors qu'est-ce que vous auriez aimé entendre ?
De continuer à travailler au plus près Par exemple, nous chercherions à faire entendre que la transversalité est essentielle. Les grandes aventures politiques, culturelles et éducatives sont nées de la conjonction du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, je dirais même de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture est presque plus en avance dans les lycées agricoles et cette relation entre culture et éducation, elle n'est pas à l'endroit où nous aimerions qu'elle soit. Par exemple, le ministre Blanquer et Madame Nissen travaillent depuis un an. Il y a eu certes des chorales à l'école, qui était un projet qui a existé avant et qui est très beau, mais la formation initiale ou continue des enseignants, qui est au cœur de du départ, si vous voulez, de la poule et de l'œuf, si je puis me parler de cette manière, c'est fondamental. Or, nous n'avançons pas dans ce domaine.
Oui, que les directeurs d'établissement disent qu'ils n'ont toujours pas d'effectifs, en tout cas, susceptibles de soutenir une chorale
dans
une école.
Par ailleurs, et puis il faut rappeler que les intermittents ne sont pas là. Ils ne peuvent d'ailleurs pas être bénévoles au début de l'année pour animer des chorales ou de la musique. Mais la formation des enseignants dans ce qu'on appelait les IUFM, qui sont devenues les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, est portion congrue. Ça continue à ne pas exister, cette formation des enseignants. La présence de l'art à l'école, dans les programmes scolaires, continue à ne pas exister. Elles sont toujours reléguées, ces pratiques, hors du temps scolaire ou extrascolaire. Donc si vous voulez, on n'avance pas assez sur ce principe. Nous aurions espéré que le président Macron, qui est un homme cultivé, soit beaucoup plus démonstratif d'une politique forte, qui a eu lieu dans certaines circonstances d'alternance politique. Le grand plan Lang-Tasca a été exemplaire. Catherine Trottmann avait fait un gros travail également sur ce domaine. Aujourd'hui, nous attendons que ce président de la République déclare davantage son projet culturel pour notre pays, pour plus d'équité, pour plus d'égalité, et notamment territoriale, au moment où on est en train de transférer les compétences aux régions, et que c'est un souci, si vous voulez, d'inégalité, car les présidents de région ne veulent pas forcément de la compétence culturelle pour certains d'entre eux. Et d'autres peuvent dévoyer, d'une certaine manière, cette compétence pour en faire, sans évaluation de l'État, ce qu'ils décideront de faire, d'où une inégalité probable.
Alors vous qui, comme beaucoup, pensez que l'objectif principal, c'est de pousser, c'est d'attirer vers la culture un public qui n'irait jamais sans une sérieuse incitation, pourquoi le pass culture n'y parviendrait pas ?
Alors le pass culture, c'est une expérimentation, mais voyez, ce sont un peu des éléments de langage, tous ces mots que l'on jette un peu comme ça, comme des... C'est en fait la seule proposition de notre président jusqu'à présent, et elle est maigre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'incite pas à une élévation, disons cela, de l'enfant qui est un élève à l'école, en donnant 500 euros, qui est un objet de consommation, au fond, à des enfants, si l'on ne flèche pas cette capacité à dépenser, vous voyez, puis c'est encore une fois sur une carte, cette idée d'une somme d'argent qui est à dépenser. C'est pas l'investissement que nous aimerions dans le service public que j'évoquais tout à l'heure, et notamment la création.
Si l'on met... Vous avez peur que les jeunes aillent voir Star Wars plutôt qu'une exposition de peinture ou d'art
aztèque? Que les industries de programme, en effet, les grandes industries musicales, ou en général dans lesquelles nous sommes un peu dans l'emprise, soit les premiers bénéficiaires, donc dans le domaine privé, de cela. Et c'est une méthode, si vous voulez, qui était dans un cadre, au lieu d'être dans la création, c'est-à-dire la proposition d'œuvres, c'est dans la consommation déjà connue d'œuvres. Or, notre travail de recherche et d'innovation est essentiel.
Bon, on va voir ce que ça donne, et vous avez encore votre mot à dire à l'oreille de la ministre, puisqu'elle-même n'a pas proposé de dispositif précis, qu'on sent qu'elle tâtonne. Elle vous écoute, oui. Et elle a déjà dit qu'elle voulait pas que ce soit un chèque en blanc aux jeunes consommateurs.
Je crois d'ailleurs qu'au ministère de la Culture, beaucoup de gens commencent à bien mieux apprécier ce pass culture et pas forcément en le valorisant comme on peut imaginer.
Merci beaucoup Robin Renucci d'avoir été avec nous ce matin. On a du coup pas beaucoup parlé de votre pièce La Guerre des Salamandres qui est en ce moment à Saint-Quentin.
Saint-Quentin en Yvelines, puis à Cergy, puis à Torcy. Encore une fois, venez si vous le pouvez, auditeurs, parce que c'est un moment particulier avec des publics qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et qui sont extrêmement participatifs.
Merci beaucoup Robin Renucci. Et sur cette question des politiques culturelles, je vous renvoie les auditeurs au dossier de la rédaction sur le site de franceculture.fr avec notamment cette interview en longueur du sociologue Quentin Fondu.